RFI, bonjour, il est 17h en temps universel, bonsoir, 18h à Paris, 20h à Alep.
Nicolas Brousse.
Alep, la grande ville syrienne désertée par les forces gouvernementales au profit des djihadistes dominés par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, la Russie, a discuté cet après-midi avec la Turquie et l'Iran, alliés du régime syrien. Officiellement, il y a une trêve depuis mercredi entre l'armée israélienne et les combattants du Hezbollah au Liban, mais dans les faits, l'armée confirme avoir mené des frappes aériennes ce samedi encore contre des positions du mouvement chiite libanais. Une installation avec des lance-roquettes dans la région de Saïda a notamment été visée. Regain de tension entre le Kosovo et la Serbie. Pristina accuse Belgrade, qui dément d'être derrière une explosion qui a endommagé un canal permettant l'approvisionnement en eau potable de centaines de milliers d'habitants. Nous serons en direct avec notre correspondant dans la région. L'armée israélienne attaque donc encore aujourd'hui des infrastructures militaires du Hezbollah près des points de passage frontaliers entre la Syrie et le Liban, des points qui étaient, selon elle, activement utilisés par le parti chiite pour transférer des armes. Illustration de la fragilité du cessez-le-feu conclu cette semaine après 2 mois de guerre ouverte qui a fait 3 900 morts et près de 17 000 blessés au Liban. On fait le point avec dans la capitale Paul Ralifé.
Les violations israéliennes de l'accord de cessez-le-feu se multiplient au Liban, freinant le retour des déplacés et entravant le déploiement de l'armée libanaise. Un drone israélien a pris pour cible ce matin une voiture dans la région de Tyr et 4 obus se sont abattus sur la localité de Khiam, dans le secteur oriental de la frontière. Dans la nuit, l'armée israélienne a lancé des fusées éclairantes et tiré des rafales de mitrailleuses contre plusieurs localités, alors que le survol du territoire libanais par des drones se poursuit. Des sources politiques et militaires libanaises expliquent la multiplication des violations par la volonté d'Israël d'imposer son interprétation de l'accord de cessez-le-feu. Celui-ci ne lui accorde pas une liberté d'action sur le territoire libanais, mais Israël soutient que ce droit figure dans une annexe qui fait office de garantie signée avec les États-Unis. Or, le Liban n'est pas signataire de cette annexe et ne s'estime pas concerné par son contenu qui constitue, selon lui, une violation de sa souveraineté nationale. Le chef de l'armée, Joseph Aoun, a exprimé ses craintes de la poursuite des violations israéliennes au général américain censé diriger le comité de supervision de l'application de l'accord de cessez-le-feu. L'officier, arrivé vendredi à Beyrouth, a promis de soulever la question avec la partie israélienne. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Et l'ONG World Kitchen Central annonce la suspension de ses opérations à Gaza après une frappe israélienne dans laquelle l'un de ses employés serait mort. L'armée israélienne assure qu'il avait participé aux attaques du 7 octobre et que par ailleurs, il travaillait pour cette ONG. L'Iran affirme que son consulat à Alep a été attaqué par des terroristes et appelle à une coordination avec la Russie, autre allié du régime syrien. Pour faire face à cette offensive éclair, les deux pays ont échangé par téléphone à ce sujet. Une escalade qualifiée de dangereuse. Alep est désormais ce soir aux mains des rebelles djihadistes qui ont notamment pris le contrôle cet après-midi de l'aéroport de la ville. En Namibie, les électeurs ont donc une nouvelle chance, une nouvelle journée pour aller voter jusqu'à 19h TU, 21h locale. Le scrutin a dû être prolongé, une troisième journée pour permettre au maximum des 1 500 000 électeurs de choisir leur futur président et leurs députés. Prolongation qui avait été annoncée hier par la commission électorale suite à des défaillances qui ont empêché de nombreux citoyens de voter. Une situation inédite pour ce pays d'Afrique australe, reconnu jusque-là pour sa stabilité et sa tradition démocratique. La candidate de la SWAPO, le principal parti, est en position de devenir la première femme présidente du pays, mais pourrait être contrainte à un second tour inédit, alors que son rival principal annonce à l'instant qu'il ne reconnaîtra pas les résultats. Résultats provisoires a priori attendus dans la foulée de la fermeture des bureaux de vote. Plusieurs arrestations au cours de la journée au Kosovo où les mesures de sécurité autour des installations critiques ont été renforcées aujourd'hui. Conséquence d'une explosion qui a endommagé un canal vital pour l'approvisionnement en eau potable de centaines de milliers d'habitants du nord du pays et d'une partie de la capitale Pristina, vital également pour les centrales électriques du pays. Laurent Rouy, vous êtes en direct de Belgrade. Le Kosovo accuse sa voisine serbe qui dément toute implication.
Arrête. Effectivement, donc survenu dans une zone peuplée de Serbes, l'explosion de la nuit dernière a endommagé une canalisation d'eau importante, cette eau servant à refroidir les deux centrales au charbon du Kosovo, notamment. Alors, si la production d'électricité a repris tant bien que mal, l'eau potable reste coupée dans une partie du territoire. Et vous le disiez, le Premier ministre Albin Kurti a accusé le président serbe Aleksandar Vučić ainsi que Milan Radojičić d'avoir organisé ce qu'il qualifie d'attentat. Alors Radojičić est un criminel serbe impliqué dans une attaque paramilitaire au Kosovo en 2023 qui avait causé 4 morts, mais il est assez peu connu du grand public. Le Premier ministre kosovar affirme avoir des preuves, mais de son côté, le président serbe a refusé de réagir, et donc je le cite, disant « la Serbie n'a rien fait et ils le savent ». Or, en tout cas, une nouvelle crise semble s'ouvrir au Kosovo, la police ayant été déployée avec des blindés fortement armés dans les principales communes serbes du Nord. L'explosion survient au lendemain d'un jet de grenade en ville qui, lui, n'avait pas fait de blessés, mais aussi un peu plus de 2 mois avant des élections législatives pour lesquelles le parti du Premier ministre, Albin Kurti, partisan historique d'une ligne très dure envers la Serbie, par favori.
Laurent Rouy, correspondant des RFI en direct de Belgrade, la capitale de la Serbie. L'Union européenne, par la voix de son chef de la diplomatie, condamne ce soir une attaque terroriste, un acte abject selon ses termes. On reste en Europe 1 mois après les inondations qui ont fait 230 morts et des milliards d'euros de dégâts dans le sud-est de l'Espagne. Des rassemblements ont encore eu lieu en hommage aux victimes. Hier soir, l'heure était au recueillement. Mais aujourd'hui, place à la colère. Nouria Chisbert, résidente de Paiporta, l'exprimait tout à l'heure dans les rues de Valence. L'une des revendications de cette manifestation, la démission de Carlos Mason, le président de la région. Mais les reproches de cette manifestante vont au-delà de sa personne.
Premièrement, dans une ville, le pouvoir le plus proche que nous ayons, c'est la mairie. Et je leur reproche de ne pas avoir donné l'alerte plus tôt. Deuxièmement, nous avons un gouvernement régional. Le gouvernement doit prendre soin de ses citoyens, il est là pour ça. Et non seulement il n'a pas pris soin de nous, mais il nous a laissés sans protection. Et enfin, le président du gouvernement central, lorsqu'il voit l'incompétence d'une région autonome et de ses dirigeants, il aurait dû reprendre les rênes et dire « non, je ne peux pas abandonner cette zone parce que ceux-là, ceux qui sont en poste, les abandonnent ». Et en tant que président du gouvernement, il aurait dû agir au bout de 24, 36, 48 heures. Pendant 3 jours, personne n'est venu ici. Il y avait des morts dans les rues. Alors qui sera jugé? Qui paiera? Quelle justice les jugera? Je ressens un mélange de colère, de tristesse, d'impuissance. Et je me demande si les dirigeants auront retenu la leçon.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial Pauline Glaise. En France, 80 130 personnes étaient incarcérées au 1er novembre. Un nouveau record alors que la France ne dispose officiellement que de 62 357 places de prison. La surpopulation carcérale ne cesse d'augmenter depuis 2 ans, propulsant le pays dans le top 3 des pays européens où les prisons sont les plus chargées. Avec des conséquences directes pour les détenus, Jean-Claude Mas est président de la section française de l'Observatoire international des prisons.
Ça fait 24 mois que nous vivons des taux de suroccupation record après record. Il y a 2/3 des personnes détenues aujourd'hui qui vivent dans des établissements où le taux de suroccupation dépasse les 155%. Cela veut dire 3-4 personnes entassées dans des cellules de 9 mètres carrés prévues en principe pour une personne. 4000 d'entre elles dorment sur des matelas. Et donc une surpopulation qui accentue la vétusté et l'insalubrité qui est déjà emblématique des établissements pénitentiaires et qui réduit aussi, quasi à néant, les possibilités d'accompagnement et d'accès aux droits des personnes, car cette surpopulation, elle va emboliser tous les compartiments de vie au quotidien en milieu carcéral, l'accès aux soins, l'accès aux activités, à une formation, à un travail. Donc comment espérer que les personnes puissent véritablement engager des parcours de réinsertion quand elles sont à ce point maltraitées, quand elles sont traitées avec une telle indignité et qu'elles subissent une atteinte répétée à leurs droits les plus élémentaires.
Jean-Claude Mas se joint par Amélie Beaucourt. Le Premier ministre canadien fait le déplacement hier soir aux États-Unis pour rencontrer le président élu américain Donald Trump. Justin Trudeau s'inquiète de la hausse drastique des droits de douane que veut imposer son voisin. Seul commentaire du chef du gouvernement canadien ce matin, c'était une excellente d'excellentes conversations. Pas d'inquiétude en revanche pour les consommateurs américains qui ont dépensé comme jamais pour le Black Friday, traditionnel jour de promotion pour les emplettes de Noël. 10 milliards 800 millions d'euros dépensés hier. C'est 10% supérieur au chiffre de l'année dernière. C'est tout simplement un record. Le commerce en ligne en a particulièrement profité. Des chiffres encore avec cette évolution qui est une petite révolution. Depuis ce matin, les numéros de téléphone au Bénin sont passés de 8 à 10 chiffres. Il faut donc désormais ajouter le 1. Vous avez demandé l'atelier politique de Frédéric Rivière et son invité. Ne quittez pas, je vous les passe. 17h10 en temps universel.